bullshit's repetitive. So why bother even taking these next steps? Even yesterday is harder to recollect. Muster it up and step out of the house. Take a little trip and start turning it out.
Lost in the city, running out of choices. Going nowhere fast, still hearing voices. Come on legs, come on feet. I'm just trying to make a little bit of history. I'm homesick, rocking a New York logo. It's only been a week and you ain't made no dough. Well, that blows and these are the breaks. A tall order of beef is high stakes. This is dedicated to the ones who think they're getting old. Since childhood, they've been calling you an old soul. Now bop that head, it's hip-hop irony. For 20-some-odd years, probably. Acting the same way, ain't nothing really changed. Maybe that internet and new heads to blame. Glimpse of the future, making these toes curl. And maybe then I'll stop spying on my ex-girl. In this world, famous to nameless, none of it is easy and none of it is painless. Weightless on the moon, watching the earth turn. Time on your side and got money to burn. Got a new watch, I got heat in the house. Got rhymes, got beats, no kids, no spouse. And I'ma turn it out. Yo, it's my turn, baby, I'ma turn it out. Yo, it's my turn, baby, I'ma turn it out. Yo, it's my turn, baby, I'ma turn it out. It was my turn, baby, I'ma turn it out. It was my turn, baby, I'ma turn it out.
Is way from creation.
Thank you. Look, choose your friends and your situations wisely. Tolerance and proliferation, timely. What's the perceived without perceiver? Why perceive with the procedures if it's a benefit to neither of us? Some things I ponder in the ether and trust. The time we steal will never crumble or rust. Just clean, but I'm still covered in dust. Turning pages from different ages. Somehow they understood the dimension to all our cages. For your mind, they say. We made it stretch so far.
19h.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Il faut prendre les choses à la racine. Il ne faut pas se protéger des pesticides, il faut interdire les pesticides.
Il faut interdire les pesticides. Chlordécone, glyphosate, acétamipride et tous les autres. Pesticides, herbicides, fongicide, quand ça se termine en cide, ça veut dire qui tue. En témoigne l'épidémie de cancer, Parkinson, leucémie et autres maladies qui frappent massivement, nous sommes tous intoxiqués, et ce n'est pas l'effet du hasard ou de la malchance, cet empoisonnement de la population est le résultat de choix politiques, conscients et volontaires, majoritairement de députés de droite et d'extrême droite au service des lobbies agro-industriels. C'est notamment ce que dénonce le collectif Cancer Colère.
Le mensonge est devenu quelque chose de normal dans le discours politique et que ça, c'est une bascule. Aujourd'hui, ça pose plus aucun problème que des hommes et des femmes politiques mentent, et notamment dans des lieux importants comme l'Assemblée nationale. Quand on a Annie Genevard qui brandit le rapport de l'INRAE et qui lui fait dire l'inverse de ce qu'il dit.
Actuelle ministre des pesticides de l'agriculture.
Quand elle dit ça, elle ment, elle sait qu'elle ment. Elle nous regarde droit dans les yeux et elle sait qu'on sait qu'elle ment. Mais elle le fait quand même. C'est d'une violence inouïe. Mais c'est fait pour déstabiliser parce qu'en fait derrière, c'est compliqué de trouver les arguments face à quelqu'un qui est un mur et qui ment. On est dans du mensonge. C'est ce côté trumpiste en fait de la fabrique d'une vérité alternative. En fait, on peut dire n'importe quoi, tout se vaut. On est dans des vérités alternatives quand on est à l'Assemblée nationale et ça pose pas de problème.
Alors, on a effectivement dépassé le stade du bon vieux mensonge politicard à la papa. 2026, ère du trumpisme triomphant, c'est le règne du climato-scepticisme et autres dénis de science. Les scientifiques alertent. Il suffit de dire que la science se trompe, casser le thermomètre pour effacer la fièvre et nier qu'en 2025, plus de 2 millions de personnes ont signé une pétition contre la loi du plomb. Sénateurs et exploitants au service des lobbies agro-industriels, ces fermes-usines, ces méga-bassines, ces poisons chimiques à gogo, dont la fameuse acétamipride, néonicotinoïde tueur d'abeilles, qui ne tue pas que les abeilles. Et une seconde pétition anti-loi du plomb est sortie, puisque Duplomb est remonté à la charge pour imposer l'acétamipride. Mais l'offensive législative ne s'arrête pas là. Arrive maintenant l'épouvantable loi d'urgence agricole, toujours au service de l'agro-industrie, plus les directives omnibus européennes qui détricotent les lois de protection de l'environnement. Offensive au service des marchands de poisons Bayer-Monsanto, Bayer qui fabriquait le Zyklon B des nazis, Monsanto qui fabriquait l'agent orange de la guerre du Vietnam, c'est la même molécule que le Roundup. Mais un peu partout, des ripostes s'organisent contre ces projets mortifères. On en parle dans ce carnaval anti-Duplomb du dimanche 26 avril 2026 dans les rues de Tours, en région centre. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est lavoixoff.com et pour votre radio libre préférée. Après le printemps silencieux, le printemps est bruyant, déterminé et joyeux.
Bonjour à tous. Alors je suis Caroline de Cancer Colère. On est là parce qu'il y a un peu moins d'un an, on était des millions de personnes à signer une pétition pour dire qu'on voulait défendre le vivant, défendre les êtres vivants. Et en réponse, le gouvernement a amplifié la réaction. Une offensive législative, on doit répondre en urgence, là aujourd'hui, d'une situation de péril imminent. Il y qu'il y a la loi du plomb 1 qui est en train d'être appliquée, parce qu'on l'a oubliée celle-là. Elle a été votée, mais là, elle est en train d'être appliquée. Il y a la loi du plomb 2 qui arrive. Il y a la loi d'urgence agricole. Il y a les directives omnibus. Et on en passe. Et on entend de plus en plus un discours qu'on appelle un backlash écologique, cancer backlash, c'est-à-dire qu'un discours qu'on entend de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur la télé, dans les journaux, et qui devient de plus en plus insupportable. On essaye de nous discréditer, de discréditer les malades, de discréditer la science, de discréditer les paysans. Et donc on est là aujourd'hui pour dire qu'on reste là, qu'on reste unis, qu'on a la science avec nous, qu'on a le vivant avec nous. Oui, rappelez quand même la présence de Cancer Colère ici. Vous n'avez pas la chance encore aujourd'hui d'avoir une antenne dans le 37, mais on vous invite à vous réunir et à le faire. Donc il y a Cancer Colère ici de la Vienne, de la Sarthe, de Loire-Atlantique, d'Eure-et-Loire. J'oublie quelqu'un ?
Est-ce que vous pourriez dire un mot pour les Antilles et le chlordécone ?
Ah ben, bien sûr qu'on est là pour parler du chlordécone, pour parler du colonialisme chimique, et on partage la lutte avec les camarades antillais.
Merci, merci. Applaudissez.
Le carnaval ici était aussi un écho au printemps bruyant qui a eu lieu début avril à Paris et qui recommencera l'année prochaine dans d'autres villes partout. En fait, printemps bruyant, c'est un mouvement en écho évidemment au printemps silencieux de Rachel Carson. Ça fait 60 ans que les scientifiques le disent, le savent et le claironnent que des pesticides, des biocides, ça tue et c'est normal, c'est fait pour ça. Et qu'aujourd'hui, on en voit les conséquences aux Antilles, on en voit les conséquences sur nos corps, on est là pour le montrer. Et donc, aujourd'hui, on est là pour se rencontrer avec toutes les organisations, pour se rencontrer, pour discuter entre nous. En fait, toute la marche, c'est pour faire du bruit, pour faire entendre qu'on est là, mais c'est aussi pour parler entre nous, pour organiser les choses à venir, pour essayer de comprendre ce que font les orgas les unes les autres, pour les gens qui ne sont pas encore militants, qui ne sont pas encore dans des orgas, pour essayer de voir ce qui se passe et ce qui peut leur coller. Il y a plein de choses à faire parce que bientôt, dans un an, il y a les présidentielles. Donc il y a les lois là qui arrivent. C'est urgent de dire qu'on est là et qu'on se fait entendre. Mais il y a les présidentielles. Donc là, c'est un marathon qu'on commence. Et on a besoin d'être tous ensemble. Merci à tous. Et de toute façon, on se retrouve pendant la marche.
Pendant la prise de parole de Caro de Cancer Colère, vous aurez peut-être entendu cette personne noire et probablement d'origine antillaise qui a aussi cité le chlordécone, pesticide employé pour tuer le charançon du bananier et qui, depuis des décennies, tue aussi des générations de Martiniquaises et de Martiniquais, de Guadeloupéennes et de Guadeloupéens qui survivent sur des terres désormais durablement empoisonnées. On en parle avec Nadine, qui connaît bien la Martinique, cette colonie française.
Bonjour Nadine.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il y a marqué sur ton t-shirt ?
Il y a marqué chlordécone, parce que je n'avais pas la place de mettre toutes les infos sur la chlordécone que j'aurais voulu mettre. C'est carrément une honte. C'est un engrais pour les bananes qui a été reconnu mauvais pour la santé depuis très longtemps. En 1976, les États-Unis l'ont retiré du marché. La France a enlevé l'autorisation mise sur le marché en 1990, sur le territoire hexagonal. Pour les Antilles, où ça servait pour les bananes principalement. On a laissé aux exploitants, les béquets pour la plupart, les blancs propriétaires des terres, on leur a laissé 3 ans de plus pour l'enlever de leur culture. Ce qui fait que pendant ce temps-là, des milliers d'Antillais qui travaillaient sur les plantations ont continué d'être infectés et en plus on a ensuite continué à donner des délais supplémentaires pour écouler les stocks. Parce que bien sûr, il ne fallait pas perdre d'argent avec la chlordécone qui était stockée. Par contre, la vie des personnes qui travaillaient dans les plantations, c'était bien moins important.
Les autorités ont estimé que ce produit, il est dangereux et qu'il donne des maladies en métropole. Mais le produit, il est inoffensif aux Antilles, c'est ça ?
En gros, ça revient à ça. Au bout d'un moment, il y a quand même eu une prise de conscience aux Antilles.
Une prise de conscience parce qu'il y a une épidémie de tout un tas de maladies.
Il y a les cancers qui montent en flèche, en particulier le cancer de la prostate chez les hommes. Et il y a aussi le myélome. Enfin bon, la moyenne sur la population, il y a un taux de cancer absolument anormal. Et aussi sur les grossesses, c'est-à-dire qu'il y a énormément de naissances prématurées, il y a des enfants mal formés, mais ça dure depuis des années, c'est-à-dire que c'est pratiquement de père en fils, de mère en fille. Enfin, moi, je vois les gens qui viennent dans l'organisme qui essaye d'obtenir des réparations. Souvent, ils demandent réparation pour eux, sont atteints, ils ont un cancer, mais ils savent que leurs parents sont morts de ça aussi. Et on leur demande de le prouver. Bon, pas évident. Mais en fait, ça dure depuis quelques générations déjà. Donc, il y a un procès pour obtenir réparation de la part de l'État français. Et à la grande colère des Antillais, pas de réponse. Quoi. Il y a eu un non-lieu en première fois. Et là, en juin 2026, on attend la réponse du tribunal qui doit statuer sur l'appel qui a été fait. Mais là, en juin, on attend la réponse, c'est-à-dire savoir si l'État français reconnaît ce que la chlordécone a provoqué dans la population antillaise, alors qu'elle était interdite dans l'Hexagone, mais toujours autorisée là-bas. Et s'il va y avoir des réparations. Alors pour l'instant, il y a des gens qui obtiennent des petites pensions, des petits dommages d'intérêt, mais c'est tellement minime, enfin le nombre de personnes qui en ont bénéficié, c'est tellement minime par rapport aux ravages que ça a fait. C'est-à-dire que là, on estime que 99% de la population antillaise a dans le sang un taux de chlordécone supérieur à ce qui est reconnu vivable. Donc 99%, parce qu'il n'y a pas que les travailleurs sur les plantations. Maintenant, le chlordécone, alors on dit le chlordécone pour le produit, la chlordécone pour la molécule. Alors ça, okay, voilà, c'est pour ça que ça passe de l'un à l'autre souvent. Le chlordécone est complètement infiltré maintenant dans les terres, dans l'eau, donc dans tout ce qu'on fait pousser dans la terre et qu'on arrose. Donc c'est pratiquement impossible maintenant sur le sol antillais de ne pas être contaminé par ça. C'est un vrai drame.
Et le lien entre là et le chlordécone et les maladies a été scientifiquement établi. En fait, tu disais si les États-Unis, si même les États-Unis.
En 76.
Si même les États-Unis ont retiré ça, si même en métropole, ça veut dire que le lien scientifique entre le produit, la molécule et les maladies, il a été établi. Parce que s'il y a des gens qui touchent des compensations, c'est bien qu'on reconnaît.
Ce qui est reconnu, c'est le taux de maladie, le taux de cancer et de maladies qui est surreprésenté sur un échantillon de population. C'est anormal. Donc.
C'est aussi sur ces flous scientifiques que s'appuient les fabricants de poisons.
Bah, oui, évidemment. Par contre, là, ce qui est difficile à nier, c'est que 99% de la population antillaise a dans le corps plus de chlordécone que ce qu'on estime bon pour la santé. Je suppose qu'ils ont déterminé un taux.
Quand on dit « mais non, la France n'est plus une puissance coloniale », si, enfin, ça s'appelle du colonialisme chimique, ça s'appelle de l'exploitation, ça s'appelle empoisonner les gens pour faire du fric.
C'est ressenti comme ça, de toute façon, par beaucoup d'Antillais. Alors, je ne vais pas généraliser, mais énormément d'Antillais le ressentent comme ça. Il y a une chanson que j'aime beaucoup de Cazet qui se termine par « Madinina, l'île aux fleurs est toujours une colonie ». Madinina, c'est le nom de la Martinique en créole.
Sais-tu comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne. Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime. Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies. Mais putain, sais-tu, encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie.
Quelque chose qui m'avait frappé, c'était pendant la pandémie de Covid, quand on a eu le vaccin mis à disposition et qu'ils ont commencé à l'envoyer aux Antilles, je me suis dit, mais ça va être une catastrophe. Les gens ne vont jamais vouloir le prendre. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été, les gens refusaient. Et je me disais, mais comment ils peuvent imaginer que des gens qu'ils empoisonnent depuis des années vont prendre volontairement un vaccin qui vient de l'Hexagone, on leur dit si, faut le prendre, c'est bon pour vous. Et les gens ne voulaient pas le prendre, ça a été une catastrophe, ils ne voulaient pas se faire vacciner. Et c'était quelque chose de tellement prévisible, je me suis dit, ça montre vraiment la méconnaissance. Les dirigeants ministères de l'Outre-mer, ils n'ont aucune idée de l'histoire et de la société avec laquelle ils traitent quoi, quand il s'agit des Antilles. Et ce sont des médecins guadeloupéens qui sont allés sur le terrain pour convaincre un maximum de gens de se faire vacciner contre la Covid. Sinon, les gens étaient trop rétifs, quoi. On refuse ce qui vient de là-bas. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est assez ancien, mais il y a eu un moment où la France faisait des essais nucléaires du côté de Tahiti.
Oui, à Mururoa, 95.
Même si on n'a pas eu avant.
Oui, il y en a eu avant, mais ça s'est poursuivi sous le règne de Chirac.
c'est vraiment le symbole du fait qu'on prend ces territoires qui sont censés être français, qui sont à des milliers de kilomètres, qui sont censés être français, c'est quasiment les poubelles. Ce qu'on ne veut pas chez soi, on va le mettre là-bas, c'est pas grave. Si on va le faire très 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 loin, c'est qu'on se doute qu'il peut y avoir des choses pas terribles qui arrivent aux gens qui habitent dans le coin.
Et c'est de la violence coloniale.
Complètement. Mais cette violence coloniale, elle existe à plein de niveaux différents. Là, par exemple, en mars, il y a eu le procès de 11 personnes qui avaient déchouqué, comme on dit, déboulonné des statues. La statue de Joséphine, la statue de Schœlcher, qui est censée être le grand artisan de l'abolition de l'esclavage. Et ils sont passés en procès. Bon, il y a eu un non-lieu, heureusement, mais c'est signe d'une violence coloniale. Ces gens vivent dans des endroits où les grands boulevards, les rues, ce qui représente la République, c'est en fait le symbole des gens qui les ont exploités, qui les ont niés en tant qu'individus pendant toute la période de l'esclavage, quoi. Et ça les met très en colère de se balader dans des boulevards Gallieni.
C'est comme si on avait des rues Pétain ou des boulevards Hitler ici. Ouais.
Voilà, exactement, exactement. Donc là, bon, il y a eu un coup de colère et ils ont mis à bas plusieurs statues. Ils ont éclaté la tête de Joséphine. Bon, ça a dû faire du bien.
Connais-tu le morne et la ravine? Le béquet qui très souvent tient les usines. La maquerelle qui passe son temps chez la voisine. Et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le mont Pelé et la savane? Les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane. Et les touristes aux seins nus à la plage des Salines. Pendant que la crise de la banane s'enracine.
Nadine, j'ai une question probablement idiote à poser. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Est-ce que nous, notamment en tant que consommateurs, est-ce qu'arrêter d'acheter des bananes, est-ce qu'on peut agir par le boycott, par exemple?
Je pense, enfin, c'est mon avis personnel, c'est trop tard, puisque bon, maintenant, effectivement, on n'utilise plus la chlordécone dans la culture, mais tout le sol en est imprégné. Et en même temps, l'industrie de la banane, sans ça, la Martinique ne survit pas. Mais en même temps, c'est vrai que les bananes doivent être contaminées, elles aussi, par la chlordécone. Mais si tu manges quelques bananes de Martinique et de Guadeloupe, bah, de temps en temps...
Surtout pour venir en soutien à nos concitoyennes et concitoyens des Antilles, en disant
ouais,
bon...
En même temps, c'est leur enlever un des rares moyens de faire fonctionner l'île, parce que l'économie de l'île, elle est quasiment par terre. Il n'y a que la banane, le rhum, la canne à sucre avec le rhum, quoi. Le café, je pense que maintenant, ça se fait plus que très peu. Non, c'est compliqué. Moi, je crois que la meilleure façon de soutenir, c'est de faire du foin autour de ça. Par exemple, quand il va y avoir le jugement du procès au mois de juin, c'est de faire du battage autour de ça, d'expliquer à tout le monde ce qui s'est passé. Quoi. Comme pendant 3-5 ans, on a continué sciemment d'empoisonner les gens. Parce que c'est les gens qui travaillaient, quand elles racontent leurs conditions de travail sur l'exploitation de bananes, passaient à côté tout le temps. Enfin, elles étaient vraiment les pieds dedans, si je puis dire. Quoi. Et ça, on l'a continué longtemps. Maintenant, c'est plutôt essayer de reconnaître et d'obtenir réparation. Et scientifiquement, je ne sais pas, je recherche scientifiquement si, qu'est-ce qu'on peut faire pour la Martinique si, maintenant que le sol est complètement imbibé de chlordécone, l'eau aussi, je ne sais pas. C'est un exemple typique des horreurs que peuvent faire les pesticides et surtout de comment le profit passe en premier, surtout quand c'est le profit des propriétaires de terres au détriment de la santé des travailleurs du coin.
Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes. Et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, à ma famille et aux Antilles.
Toujours dans le cortège de ce carnaval anti-Duplon, on tombe sur Gilles Deguet de France Nature Environnement.
Bonjour Gilles.
Bonjour, il y avait longtemps.
Bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une manif ensemble. La dernière fois que j'ai dû tendre ce micro, je crois que c'était à Sainte-Soline, hein, il y a trois ans.
Heureusement qu'il y a les manifs.
les réponses sont toujours plus complexes que les questions. Il y a des gens qui me disent très benoîtement, il n'est pas prouvé par la science que tous ces produits en cides, fongicides, herbicides, etc., donc cides qui tuent, hein, donnent des maladies aux gens qui mangent de la nourriture empoisonnée. La science n'a pas encore prouvé qu'il y a un rapport de cause à effet entre ces poisons qui tuent et l'épidémie de cancer et autres maladies. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça?
C'est une méconnaissance de comment on travaille sur les questions d'épidémiologie. Si tu prends un poison et que tu crèves dans les deux jours, on fait des analyses, on retrouve des traces du poison, c'est bon, on sait que c'est ça qui t'a tué. Là, on est sur des poisons que tu absorbes petit à petit, qui s'accumulent, qui se croisent avec d'autres, qui, etc. Et, tout. Et donc, faire la preuve absolue que c'est un machin que tu as bouffé il y a un mois ou deux mois qui a causé ta mort, c'est vachement difficile. Parce qu'il y a toujours un lobbyiste bien intentionné qui dit « Ah oui, mais le monsieur là, peut-être qu'il fumait, peut-être qu'il a eu un stress machin, etc. Et tout. » Toutes les mesures individuelles posent tout problème. Et tu es obligé de travailler sur des statistiques. Avec des statistiques, les gens qui bossent réellement, sérieusement, ils donnent des probabilités. Et donc, tu as cancérogène possible. Possible, ça veut dire juste qu'il est possible. Les gens qui disent « c'est pas prouvé », ils ont une part de vérité. Quand il y a marqué « probable » ou « attesté », il y a l'incertitude absolue que dans un voisinage où il y avait une source, il y a deux fois ou trois fois plus de cancer que partout ailleurs. Et donc c'est ça qui dit que ça a fait mourir les gens. Et donc on n'a jamais de preuve complète et c'est sur ça que travaillent les gens qui te filent du poison. Ils te filent du poison, mais... ils ont du monde, parce que ces gens-là, en général, ne font pas que faire de produire de la saloperie, ils la vendent aussi, et ils la vendent cher. Ça leur fait des bénéfices, et ça leur donne les moyens de mener des combats de toutes sortes sur des questions scientifiques, nourrir des études qui sont entièrement payées par eux et qui ressortent comme ça. Et donc, ils essayent de semer le doute, mais ça, on sait ça sur le tabac, hein, je veux dire. Et c'est les mêmes techniques. Faites attention, ils ne vont pas refaire une deuxième loi du plomb, ils en ont déposé une, mais ils vont faire ça bien plus subtilement et bien plus sournoisement.
Du plomb remonté à la charge pour imposer l'acétamipride, mais... qui est le seul truc finalement qui a sauté après les plus de 2 millions de signatures qu'il y a eu pendant l'été 2025. Alors, oui aux fermusines, oui aux mégabassines, oui aux pesticides à gogo, sauf l'acétamipride, et puis non finalement on vous la recolle.
Ce que ça signifie, c'est que ces gens-là s'en tapent éperdument. Ils ont un projet, il faut avancer. Et leur projet, il est plus vaste que ça. Leur projet, c'est de se réapproprier pratiquement toute la nature. Dans cette optique-là, tout ce qui la défend est sur leur chemin. Et donc, il faut qu'ils arrivent à le déconsidérer, à lui enlever du pouvoir, etc. La quintessence de ça, c'est la loi d'urgence, la LUPSA.
La loi d'urgence agricole ?
Oui, c'est dans celle-là que tu verras qu'il ressortira des amendements qui réintroduiront d'autres saloperies au fur et à mesure.
Dans ce qu'ils rajoutent aussi dans ces lois écocidaires, là, c'est aussi faire sauter le principe de précaution. Feu vert pour les marchands de poison, allez-y, balancez vos molécules. On n'a pas le temps de vérifier si ça tue des gens ou pas.
Mais très probablement, moi j'ai entendu aussi que la charte de l'environnement, ils l'ont à travers de la gorge. Et s'ils peuvent profiter du fait qu'en ce moment, ils ont des politiques qui sont complètement à leur botte, s'ils pouvaient aussi récupérer ce truc-là, c'est un machin qui est considéré comme un progrès par tout le monde depuis 20 ans. Et je rappelle que c'est Chirac quand même qui l'a mis dans la... et tout. Et bien celle-là, ils essaieront de la rechoper. Et s'ils peuvent, ils le feront.
Grâce glyphosate, on a tous une grosse prostate. Grâce aux fongicides, on n'a plus de thyroïde. Haute valeur environnementale et tumeurs colorectales. Merci Bayer Monsanto, on a tous droit à la chimio. Grâce au chlordéco, on se fait changer les poumons. Merci Bayer Monsanto.